Radio Harmonie Cornouailles.
Bonjour à tous et à toutes et merci une fois encore de votre présence dans cette émission consacrée au peuple autochtone du Canada, le Wanda. Dans la première partie de notre émission avec notre invité Christophe Hervé, ancien gendarme à la retraite, donc qui est actuellement en charge du développement au Centre européen de formation continue maritime. Nous avions parlé de l'histoire, de mode de vie et des origines du peuple Wanda. Dans cette deuxième émission, eh bien, nous allons parler de l'aspect spirituel chez les Wanda. Ils sont profondément ancrés, n'est-ce pas, dans leur relation avec la nature, les ancêtres, une cosmologie très riche qui guide leur vision du monde et leur quotidien. Christophe Hervé, bonjour.
Bonjour.
Merci une fois encore de répondre à cette invitation. Dans la première émission, effectivement, vous nous avez parlé de la richesse, hein, de la culture, du mode de vie de Wanda. Vous-même, vous avez des attaches avec ce peuple. Peut-être pour cette deuxième émission, brièvement nous dire un peu qu'est-ce qui vous lie à ce peuple Wanda.
Tout d'abord, la naissance et puis une certaine... Des choses qui dépassent finalement l'acquis, des choses qui dépassent l'acquis ultérieur, des choses qui marquent profondément le caractère. Et ça donne des choses que l'on comprend au regard de, on va dire, des traditions Wenda, de l'organisation de la société, et puis même des mythes fondateurs de la création du monde et de la cosmogonie Wenda.
Mmh. Voilà. C'est ça qu'on va parler, la spiritualité chez les Wenda. Leur spiritualité est centrée sur des récits, en tout cas, des récits mythologiques.
Tout à fait.
Et c'est ça qui explique la création de notre monde et l'origine des humains.
Oui.
Et j'aimerais en savoir un peu plus, Christophe.
Voilà. Alors, c'est une des choses qui marque sans doute le plus lorsqu'on découvre la culture d'une façon générale iroquoienne, parce que l'ensemble de cette civilisation et de ces mondes, à la fois d'ailleurs algonquiennes et iroquoiennes, ont des mythes fondateurs très très proches qui sont effectivement qui expliquent la cosmogonie, qui expliquent effectivement la création du monde vue par ces peuples amérindiens. Là où ça devient très étonnant, c'est que ces récits sont des images qui suggèrent des choses très proches de la Genèse, alors qu'il n'y a aucun contact. Autant, effectivement, la Genèse biblique s'explique dans ses livres poétiques, s'explique avec les contacts avec les Sumériens, et l'héritage des Sumériens et des peuples antiques. Il n'y a rigoureusement pratiquement aucun contact avant le 14e, 15e siècle avec cette autre partie du monde, ce qui fait que la surprise, c'est que le récit de la création du monde chez les Wenda est quelque chose de finalement très proche. Mmh. On va raconter l'histoire de Yatainsik, qui s'appelle l'Ancienne, et à l'origine, on considère que le monde, il y a deux mondes en fait. Il y a un monde ciel, où il y a une vie qui existe dans la partie haute du ciel, et il y a un monde, on va dire, inférieur, qui vit dans l'obscurité et qui n'est fait que d'une grande mer. Mer que fréquentent certains oiseaux et certains animaux marins. Voilà, c'est très étonnant. Et vient un jour où cette fameuse ancêtre, donc Yatainsik, qui est la fille du grand chef, enfin du grand esprit, était malade. Et il y a un homme médecine qui a creusé un trou autour de l'arbre céleste, qui ressemble franchement à l'arbre de la connaissance, parce que cet arbre a des fruits que sont la connaissance et des racines qui guérissent. Et donc, on va creuser au pied de cet arbre, et cet arbre géant qui éclaire le monde ciel de ses fleurs, on va creuser pour trouver des racines. On va creuser si profond qu'en fait, l'arbre va se déchausser et tomber dans un trou béant vers le monde mer. C'est assez étonnant. Et cet arbre, en tombant, va créer une brèche dans le ciel, et on va voir donc un luminaire dans le ciel qui va éclairer le monde d'en bas. Et cet arbre, en tombant, va entraîner la jeune fille. Et cette jeune fille malade, comment dire, va d'abord, on va dire, descendre, et sa chute va être amortie par des oies bernaches qui sont finalement les symboles du Canada. Et ces oies bernaches vont ralentir sa chute jusqu'à la faire arriver sur le dos d'une grande tortue. L'arbre va tomber effectivement en mer, et il va falloir, d'une certaine façon, les animaux qui vivent dans l'eau vont essayer de retrouver un peu de terre pour mettre sur le dos de la tortue. C'est assez étonnant. C'est finalement un petit animal extrêmement discret, hein, le crapaud, qui va venir chercher de la terre au fond de l'eau pour le mettre sur le dos de la tortue. Et la tortue va s'habiller de terre, et la terre va se développer à partir d'un dos de tortue. Alors, ça s'explique aussi quand on regarde, vu du haut, la carte de la... effectivement, de l'Iroquoisie, c'est-à-dire la zone iroquoise des Grands Lacs, c'est qu'on a des grands lacs qui entourent une pièce de terre qui ressemble franchement à un dos de tortue. Donc voilà, on a aussi cette explication-là. Cette terre va grandir, va devenir un continent, et Yaratan-Tsik va réaliser qu'elle n'était pas malade, mais enceinte. Elle va accoucher d'une première fille, qui va elle-même accoucher de deux jumeaux, dont l'un est l'ordre et l'autre le chaos. Ces jumeaux vont forger l'île de la Grande Tortue à leur image. Et au terme de la création, l'ordre, qui s'appelle Luska, va créer les hommes et leur offrir des dons, dont celui du feu, symbole de la civilisation. Donc voilà, toute cette histoire de la création du monde a de grandes affinités quand même avec la Genèse décrite par la Bible. Il y a une espèce d'immense intuition qui est finalement commune à de nombreux peuples sur la Terre. Voilà.
Et on peut voir dans cette histoire un symbole d'une connexion profonde avec la Terre. La Terre qui est considérée comme une mère, hein, mère nourricière, à respecter et puis à honorer. Je suis avec Christophe Hervé, donc, qui nous parle de la spiritualité chez les Wanda, qui croient en une diversité d'esprits et qui habitent dans la nature, en fait.
Oui, oui. Et effectivement, bon, on a une forme d'animisme qui régit la société. Un animisme qui est très tranquille, qu'on appelle quiétiste en termes religieux. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune notion de suprématie d'une religion sur l'autre. Mais globalement, il y a des esprits, des grands esprits. Les êtres du ciel, en fait, peuvent s'assimiler aux anges, finalement, que l'on va trouver dans l'Ancien Testament. Mmh. Et d'ailleurs, il y a toujours une communication avec le fameux monde-ciel. Il y a toujours une communication avec des esprits avec lesquels on peut communiquer. Et puis, il y a petit à petit une organisation qui nous est donnée par l'héritage de cette fameuse ancienne. Mmh. Derrière ça, dans l'héritage, effectivement, on va trouver toutes sortes de pratiques intéressantes. C'est une religion qui est relativement, comment dire, relativement simple. Il n'y a pas de grande philosophie, de grande spiritualité. Il y a une explication des choses de la vie qui est très, très simple. Et qui permet effectivement d'accumuler des savoirs et des pratiques.
Un autre aspect ou un autre élément très important chez les Wanda, c'est les totems. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Oui. Alors, le terme de totem est un terme qui a été adopté à partir, on va dire, du 19e siècle, du 20e siècle, par l'Occident. En fait, totem, c'est un mot ojibwé. L'ojibwé, c'est la langue. Le peuple qui le parle, ce sont les Abénaki, c'est-à-dire les Anishinaabeg, et au sud, les Chippewa. Voilà, ces deux peuples-là parlent l'Ojibwé, et c'est un terme qui est algonquin, qui a été adopté par les Iroquoiens, en fait. Voilà. Alors le totem, chez nous, chez les Wenda, n'a rien à voir avec la façon de s'attribuer un nom par d'autres tribus plus du sud, où on va se mettre en état de transe avec des produits ou des plantes ou des champignons hallucinogènes, etc. On va s'affamer pendant quelques jours et on va avoir la visite d'un animal. En fait, il n'y a rien de surnaturel dans l'attribution d'un totem chez les Iroquoiens, d'une façon générale, et chez les Wenda en particulier, à partir du moment où on passe le stade de la préadolescence. Il faut savoir que c'est un nom d'animal qui vous est attribué par les amis de tous les jours, c'est-à-dire en fait ce sont des noms qui sont attribués par des gens un peu de la génération juste avant la vôtre, donc des jeunes adultes qui vont se regrouper, qui vous connaissent bien et qui vont donner un nom d'animal qui va symboliser vos qualités. C'est un nom social en fait, le totem chez les Wenda. Il est très pratique parce que ce nom attribué va vous donner un certain nombre de caractéristiques faciles. Et lorsque vous parlez à quelqu'un qui porte un certain totem, vous savez à la fois ses qualités, ce qui peut le blesser, ce qui peut lui faire plaisir, ce qui peut aller dans son sens. Donc ça donne une clé sociale pour s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose de très pratique socialement, parce qu'il y a des liens sociaux qui sont très très développés dans la culture Wenda. Les différentes façons de dire bonjour ou au revoir, par exemple, sont très codifiées. Et les totems, de la même façon, vous donnent des clés de compréhension et de comportement sur des personnes. Voilà.
Wow. Christophe Hervé, hein. qui est notre invité, il nous parle de la spiritualité chez les Wenda. Et vous avez compris, les Wenda attachent une importance hein, au totem, mais pas que, aussi aux rêves. Qui sont perçus comme des moyens de communication, non, entre les voilà, esprits et puis et les vivants.
Voilà. Bon, c'est un point commun avec finalement les songes bibliques. On a une culture du rêve qui existe effectivement. Alors les rêves ne sont pas pris pour des prophéties, les rêves sont pris pour des indications, des conseils, quelque chose qui est assez voilà, on n'accorde pas une importance capitale à un rêve, mais on va lui donner une signification effectivement. Un petit peu dans l'esprit d'un coup de pied aux fesses de la Providence, par exemple. Mmh. Voilà. Y a des choses qui sont liées au rêve, par exemple. Vous connaissez tous, je pense, le capteur de rêve, par exemple. Mmh. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une invention iroquoienne. C'est-à-dire que les peuples iroquoiens reconnaissent cette espèce de chose en forme de toile d'araignée pour une raison toute simple. C'est une affaire de rêve, en fait, effectivement. On a développé quelque chose à partir d'une histoire tragique. C'était deux frères dont l'un dont l'aîné a tué son cadet accidentellement à la chasse. Et il s'est isolé de son clan pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et petit à petit, en gros, a développé une grande mélancolie et ne trouvait jamais le sommeil et avait toujours le retour en pensée de cet homicide commis, effectivement, de ce fratricide commis avec son frère. Jusqu'au jour où, un matin, il s'est réveillé après avoir passé une nuit complète et s'est rendu compte que juste au-dessus de sa tête, il y avait une toile d'araignée. La première chose qu'il a faite, c'est d'en faire l'association. Il a pris un jonc, il l'a tourné en rond, et il a attrapé la toile d'araignée, et il a utilisé ça pour mettre au-dessus de son lit pour dormir. Et la tradition est venue de prendre un jonc et d'y tresser quelque chose qui ressemble à une toile d'araignée, d'en faire joli, et de le mettre au-dessus des lits des enfants pour leur éviter, pour capter les mauvais rêves, les mauvaises inspirations, etc.
Ah, ça vient voilà. De chez les Wenda, en
ça
tout
vient
cas.
De chez les Iroquois d'une façon générale. Les Wenda, effectivement, on le trouve dans des peuples du Sud très très vite parce qu'on a des liens avec les peuples du Sud. Donc les cultures, les histoires se racontent dans les grandes assemblées bisannuelles, les fameux Powo. Et globalement, on se retrouve avec une culture qui se transmet très facilement.
Ah, d'accord. En tout cas... chez les Wenda, également, la spiritualité, elle est transmise oralement. Et ça passe de génération en génération, en tout cas. Voilà. À travers quoi ? Par quoi ? Des chants, par exemple ? Ou comment
alors,
ça se transmet ?
Il y a des chants, il y a des histoires, et il y a aussi des cuirs tannés avec des idéogrammes pour transmettre les grandes histoires. Par exemple, le mythe de la création du monde est transmis par idéogramme. Et c'est quelque chose d'assez fiable. Il a fallu attendre néanmoins le XVIe siècle et l'arrivée des jésuites pour que la langue Wenda soit écrite, en fait. Ils ont écrit et composé les phonèmes. Ils ont même dû utiliser, par exemple, le chiffre 8 pour grapher des phonèmes qui ne correspondent pas du tout aux phonèmes gréco-latins. Et on a écrit et fait une grammaire. Donc on a un vocabulaire, un dictionnaire et une grammaire. Et... Un père comme le père Jean Brébeuf, par exemple, qui est célèbre pour nous, Saint Jean Brébeuf, qui est notre évangélisateur préféré, il a écrit aussi des chants avec des mélodies Wenda. Et en particulier, on a gardé en mémoire, on le retrouve très très facilement sur YouTube, si vous faites le Huron Carole, vous allez trouver effectivement le chant de Noël des Wenda qui a été écrit et composé par le père Jean Brébeuf. Sur des intonations et en langue Wenda.
Mmh. Voilà. Et en tout cas, quelle est la situation actuelle des Wenda ? Ils sont combien aujourd'hui ?
Alors, les Wenda, par rapport, par exemple, si vous prenez... Alors, je vais juste passer à côté pour vous montrer des gens qui sont plus nombreux. Par exemple, les Haudenosaunee, qui sont les Iroquois, sont à peu près... 10 à 15 000. Les Wenda sont guère plus de 5 000 à peu près aujourd'hui, répartis sur les rives de la rivière Saint-François et à Wendake à peu près. Il y en a 1 500 à Wendake, juste à côté de Montréal. Et le reste de la diaspora, donc Wenda, est centré, effectivement, il y a 5 000 Wenda au Canada. En revanche, comme on a subi aussi le grand dérangement à cause en 1755, comme la plupart des Canadiens français, locuteurs français, on a dû s'exiler au sud. En fait, il y a une partie du peuple Wenda qui est partie à pied, direction le nord-ouest des États-Unis. Et les Wenda, qui parlaient une langue un peu particulière, n'ont pas trop été compris par les locaux. Et ça a donné en fait les Wyandot. Les Wyandot qui habitent en fait au nord-ouest des États-Unis, Wyandot, dont une partie de la population, à l'issue des grands changements politiques, a pu remonter effectivement ensuite autour du Canada. Donc en gros, aujourd'hui, de Wenda identifiés, on a à peu près 5 000 personnes.
Merci beaucoup, Christophe Hervé, de nous avoir présenté ce peuple donc autochtone du Canada qui vit autour des Grands Lacs de la baie géorgienne dans l'actuel Ontario. Vous avez des origines, Wenda, et on voit combien la spiritualité est très très riche dans ce peuple. On n'a même pas pu explorer tout. Et on aura une occasion, une troisième fois, pour vraiment parler de ce peuple, du contact aussi avec le christianisme, notamment l'Église catholique, qui a eu beaucoup plus d'influence que les protestants, donc chez les Wenda. Merci une fois encore, Christophe. Et je rappelle que vous êtes donc officier de gendarmerie à la retraite et vous travaillez actuellement donc au Centre européen de formation continue maritime comme chargé de développement. Merci.
Et à bientôt.